Eh bien, mes chers amis, je suis heureux de vous retrouver et de voir aussi quelques nouveaux visages dans la salle. Nous savons que c'est le Seigneur qui nous a accueillis hier soir et ce matin, c'est encore en lui que nous nous accueillons les uns les autres, comme lui-même nous a accueillis dans l'amour de son Fils. J'ai été très heureux ce matin d'entendre la méditation que le Seigneur a mise sur le cœur de notre frère et ami Noël Aubut au sujet de cette parole de Dieu et qui nous occupe. C'est une parole, en effet, qui est vraiment utile, mais comme l'a souligné notre frère, même si elle est utile pour nous enseigner, il n'est pas toujours certain que cette parole produise du fruit. Et si elle n'en produit pas, cela ne vient pas d'elle, mais des cœurs, de ceux qui l'entendent. Et c'est si vrai que la parabole du semeur est d'un grand enseignement pour nous, et j'espère que vous aurez tous retenu ces quatre terrains et compris que cela nous concerne, que c'est pas une parabole qu'on emploie simplement pour l'évangélisation, mais que notre cœur, même dans une retraite, peut être aussi dur qu'un chemin, parce qu'on est encore préoccupé par le monde, parce que notre cœur aussi peut avoir un moment de jouissance parce qu'on est dans la communion fraternelle. C'est le deuxième terrain. Alors, on reçoit dans une retraite la parole avec joie. Mais ça ne dure pas parce que, au fond, habituellement, on ne se nourrit pas de la parole. On vient se ressourcer, comme on dit. Ou regonfler, enfin, nos batteries. Recharger nos batteries. Une expression que je déteste. Quand on nous dit, je suis venu à votre retraite pour recharger mes batteries. Comme si c'était cela la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas recharger une batterie. C'est avoir Jésus en soi. Ou on l'a ou on ne l'a pas. Et quelle place a-t-on donné au Seigneur Jésus? Et puis, il a souligné aussi ce troisième terrain où nous voyons que on reçoit la parole. Oui, il y a de la terre, mais il y a des épines qui poussent. Et finalement, même si la semence a pu pousser un peu, les épines finissent par tout étouffer. Et quand on lit le contexte, on sait d'où cela vient. C'est que les plaisirs du monde, les soucis du monde nous accaparent encore. Le Seigneur n'a pas toute la place, nous n'avons pas renoncé vraiment à nous-mêmes. Et c'est là notre grand ennemi. Il ne faut pas chercher ailleurs. Mais enfin, il y a la bonne terre. Et vraiment cette nuit, en étant devant le Seigneur, je lui demandais que vous puissiez, comme nous allons le voir, être de ceux qui sont venus ici avec le désir qui était dans le cœur d'Élisée, qui a été appelé 29 fois homme de Dieu. Ce qu'il désirait, c'est pas d'avoir une petite mesure de l'Esprit, mais la double mesure de l'Esprit qui avait animé qui? Un autre homme de Dieu, Élie. C'était osé de dire cela. Je voudrais recevoir la double mesure de ce que toi, tu as reçu. Et qui était cet homme qu'Élisée allait voir s'en aller au ciel? C'est le grand prophète Élie qui s'était tenu devant l'Éternel, qui avait accompli des choses merveilleuses. Il semblait qu'on ne pouvait pas le dépasser. Et pourtant, quand vous lisez l'histoire d'Élisée, mais pour ça il faut aimer la Bible, hein, Et il faut se nourrir de la Bible. Il n'y a pas de secret. Quand on nous dit que les gens ne font pas de progrès, ce n'est pas simplement parce que vous avez des pasteurs qui ne vous donnent pas assez à manger. C'est parce que vous-même, vous ne vous cultivez pas dans la parole de Dieu, d'une façon personnelle et habituelle. Je suis absolument convaincu, après plus de 50 années de ministère, que les seules personnes qui font des progrès sont celles qui lisent la parole de Dieu, qui apprennent à l'aimer et qui la mangent, qui, comme Marie, la mère bénie de notre Seigneur, la repasse dans leur cœur, en font vraiment l'objet de leur méditation. Mais aujourd'hui, évidemment, il y a tant de distractions, tant de gens qui, dès qu'ils rentrent du travail, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent devant cette abomination de la désolation de nos temps modernes qui s'appelle la télévision. Oh, mais c'est pour entendre une émission religieuse. Une émission religieuse qui vous permet après de ne plus aller à l'église. C'est tellement plus facile, n'est-ce pas, d'écouter une prédication sans avoir à se frotter à nos frères et à nos sœurs d'une communauté. Comme ça, on n'a pas trop de problèmes. Alors que justement, ce qui peut nous former, c'est justement de nous trouver avec des frères et des sœurs qui ne sont pas parfaits, comme nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits, et de devoir nous supporter les uns les autres dans l'amour. Tandis que l'amour devant la télévision, vous idolâtrez simplement un prédicateur. Et puis après, ce prédicateur que vous pensiez être un homme de Dieu, vous apprenez qu'il faisait les 100 coups, tout en étant évangélique et fondamentaliste. Et c'est une marée épouvantable de boue qui déferle sur les milieux dits évangéliques qui ne sont pas meilleurs que les autres, alors qu'on est atteint par cette maladie de triomphalisme qu'on a condamné dans l'Église catholique autrefois. Et maintenant, on fait la même chose. Avant, c'était hors de Rome, pas de salut. Aujourd'hui, hors de chez nous, pas de salut. On se plaignait des curés qui vous demandaient pourquoi vous n'étiez pas allé à la messe. Et puis, si un jour, vous n'êtes pas à un culte, on vous questionne pour savoir où vous étiez, au lieu de prier pour vous. Alors, on est de nouveau remis sous des jougs dont nous nous ressemblons étrangement. Et il y a 2 mois, j'étais encore en Europe, et les échos que j'ai eus de ce qui se passe aussi, et je l'ai constaté moi-même, soit en Italie, soit en Suisse, soit en France, comme en Belgique aussi, eh bien, au fond, dans beaucoup de milieux, et même évangéliques, la place de la parole, elle est toute petite. Ce qui compte surtout, c'est les numéros spéciaux. C'est la musique, d'abord. Et on doit attendre 1 heure avant que la présentation de la parole puisse avoir lieu devant un public qui est déjà fatigué, qui est là depuis 1 heure, et puis on espère que le prédicateur ne va pas être trop long. Et alors, évidemment, on est tenté presque de ne plus lire la parole pour donner au moins un message. Et c'est pas le message, c'est pas les paroles du prédicateur qui peut faire quelque chose, c'est la parole. Et c'est cela, c'est à cela que nous devons revenir. Claire-Lise de Benoît, qui est une de mes bonnes amies d'enfance, celle qui a fait tous ces cantiques que vous chantez peut-être, me disait, tu sais, les gens n'aiment plus entendre la parole. Et pourtant, c'est dans la ligne de la Bible que l'on constate même ça. Oh, mais on a lu sa petite portion matinale. alors il nous arrivera rien dans la journée. On est OK, hein. On a fait notre lecture biblique, notre petit quart d'heure sur 96, c'est correct. Mais une lecture dévotionnelle, j'y crois, c'est utile, mais ça ne nous donne pas une connaissance biblique. Croyez-le bien, vous n'aurez jamais une idée de ce qu'est la parole de Dieu si vous ne l'avez pas lue depuis la première page jusqu'à la dernière. Et c'est cela qu'il faut enseigner, et c'est à cela qu'il faut revenir. Nous lisons un tas de livres, et vous direz, ben, vous aussi vous en avez écrit. Oui, mais c'était des prédications que le peuple a demandées pour avoir, au fond, un résumé de ce qui avait été dit. De sorte que les livres que nous vous offrons sont vraiment des livres qui vous conduisent sans cesse à la parole de Dieu. Parce que derrière chacune de nos pensées, il y a un texte biblique qui n'est pas isolé de son contexte, mais qui exprime la pensée de toute l'Écriture. Parce qu'il ne doit pas y avoir de contradiction dans les Écritures. Alors, nous avons vraiment cette sainte ambition de revenir à la parole de Dieu. Et si Dieu m'accorde encore un peu de souffle jusqu'à ce qu'il me reprenne, malgré que l'âge est là, eh bien, je lui demande de pouvoir annoncer à la génération future ce que j'ai commencé d'annoncer il y a 50 ans et qui a produit quand même ses fruits. Puisque ces gens qui étaient enseignés il y a 50 ans, que ce soit en Suisse, en Italie ou ailleurs, demandent que nous revenions là-bas pour enseigner leurs enfants et leurs petits-enfants. Et témoignent que c'est cette parole qui leur a permis de surnager, de survivre au sein de ces temps si difficiles. Et voyez-vous, je l'ai dit hier soir à un ami, j'étais frappé à Paris le 1er septembre, le jour de mon départ de Paris, je lisais dans Le Monde, le journal du Monde à Paris, cette réflexion d'un journaliste qui disait « Le monde aujourd'hui est atteint d'une maladie qui s'appelle la festivalite. » La festivalite, c'est des festivals partout, hein. C'est le drame partout, il y a des choses épouvantables qui se passent dans le monde, mais maintenant, festival, 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 tout est festival. Et notre jeunesse évangélique est conditionnée par ce monde-là. Alors, on fait aussi nos festivals, il y a bientôt plus que des festivals parmi les chrétiens. Nous dansons au bord d'un volcan. Alors que le jugement de Dieu vient et qu'il commence par sa maison. C'est le temps, mes frères et sœurs, de nous ressaisir. Alors, nous reprenons donc notre thème, les caractères d'un homme de Dieu. Et hier soir, en introduisant le thème de cette retraite, nous avons souligné, comme l'a fait déjà notre frère ce matin, qu'un des textes clés qui formerait la toile de fond de nos exposés se trouvait donc dans la deuxième épître de Paul à Timothée, ces versets 16 et 17 du chapitre 3, que je relis, toute écriture est inspiré de Dieu est utile pour enseigner. Qu'est-ce que veut dire enseigner? Enseigner, c'est indiquer, c'est montrer, c'est transmettre des connaissances. Si vous voulez avoir des connaissances, eh bien, il vous faut lire l'Écriture. Car ce sont des connaissances qui viennent de Dieu, puisqu'il est l'auteur, l'inspirateur de ces hommes qui ont écrit les Écritures donc nous enseignent, puis elles nous sont données pour nous convaincre. Qu'est-ce que c'est qu'être convaincu? Qu'est-ce que c'est convaincre? C'est amener quelqu'un à la certitude des faits. On n'a plus de doute. Hein? La foi est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas. Nous n'avons plus de doute sur certains faits. Or, aujourd'hui, les gens sont tout le temps dans le doute. Dès qu'ils entendent un autre prédicateur, les voilà de nouveau chavirés et dans le doute. On se demande qui a raison, qui est le vrai, qui est le faux prophète. Parce que tous s'appellent hommes de Dieu. Et c'est cela que nous allons découvrir. Dans la Bible, le titre d'homme de Dieu n'est pas donné à tort et à travers. Et nous avons vu que c'était aussi pour corriger. Qu'est-ce que c'est que corriger? Eh bien, c'est redresser, littéralement, c'est rendre meilleur. Et nos réunions, comme le dit Paul, devraient avoir comme but de nous rendre meilleurs. Or, bien souvent, c'est le contraire qui se passe. Quand on entend quelquefois les personnes sortir d'un culte et se critiquer les uns les autres, ou critiquer le chapeau de telle sœur ou sa dernière robe, on se demande ce qu'ils sont venus faire dans une réunion où on était bien recueilli. On a fait son offre, on a donné son offrande. Rendre meilleur. Vous ne vous réunissez pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Est-ce que c'est Racine qui vous dit ça? Non, c'est l'Écriture. C'est pas moi. Je ne suis que le porte-parole. Et il est dit pour instruire dans la justice. Dans la justice pratique. Qu'est-ce que c'est que cette justice? Eh bien, c'est une vertu morale qui fait rendre à chacun ce qui lui est dû. Et nous devons bien comprendre cela, que nous sommes dans ce monde pour rendre à chacun ce qui lui est dû. Et qu'est-ce qui peut nous instruire dans la justice pratique, dans ce que j'ai à être pour mon prochain, pour mon frère? C'est encore la parole de Dieu. Pour que l'homme de Dieu, oui, c'est là que nous trouvons cette expression, pour que l'homme de Dieu soit accompli, ou une autre traduction dit équipé, parce que Dieu veut des hommes équipés, ou propres à toute bonne œuvre. Et alors, il y a une chose qui me frappe beaucoup, c'est que dans nos temps, on est aussi atteint par ce phénomène qu'on appelle l'élitisme. C'est-à-dire, on veut former une élite. D'une manière ou d'une autre. On veut former des leaders. Moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que tous ces leaders, finalement, se gonflent. Ce qu'il faut former, c'est les âmes. À la base. C'est les petits du troupeau qui ont besoin aussi de grandir et de voir qu'on leur donne le plus possible, qu'on les aime assez, pour qu'ils ne soient pas toujours à la remorque de leaders, mais qu'eux aussi croissent et grandissent d'une façon normale et naturelle, et qu'ils ne soient pas dominés par quelques chefs. Parce que l'Église catholique, elle a un chef, mais qui est encore assez loin. Rome, c'est toujours loin. Tandis que maintenant, beaucoup de nos églises ont des petits papes, que j'appelle, moi, des sous-papes. En tête ou latérale, peu importe. Et c'est cela qui devient dramatique. Alors, on a condamné le cléricalisme, mais au fond, on a de nouveau tout un clergé et qui se croit quelque chose. Alors, je me juge moi-même en disant tout cela, parce que je veux me laisser avec vous, comme je vous l'ai dit hier soir, instruire par la parole de Dieu, corriger, être convaincu, j'en ai besoin moi-même pour pouvoir en parler aux autres. Et voyez-vous, je suis assis au milieu de vous, avec vous, pour écouter ces paroles de Dieu. Alors nous pouvons ce matin citer encore un deuxième texte, qui est un texte clé de notre retraite, et que nous lisons alors dans la première épître à Timothée, au chapitre 6, au verset 11. « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. » Et demain nous verrons quelles sont les choses que nous avons à fuir. Et vous pourrez vous poser cette question, est-ce que je fuis ces choses? Et recherche ou poursuis, et alors là vous avez quelques éléments, la justice, j'en parlerai demain, la piété, nous donnerons une définition de la piété, la foi, nous verrons ce que c'est que la foi, c'est pas la foi qui sauve, mais une foi qui grandit, une foi dynamique, une foi qui produit des œuvres. L'amour, un amour qui est vrai, qui est sincère, la patience qui nous permet de traverser toutes les épreuves, et puis la douceur, mais pas n'importe quelle douceur, la douceur d'esprit, comme le traduit la version originale, la douceur d'esprit, cette douceur du Christ. Qui n'était pas mielleuse, hein, parce que le Christ pouvait être doux et homme de cœur, mais en même temps il pouvait avoir, comme je dis souvent, des paroles de feu et d'acier pour condamner l'hypocrisie religieuse. Mais quelle douceur! En même temps, pour les malheureux, pour les pauvres, et même pour les pécheurs, les prostituées, et les gens de mauvaise vie s'approcher de lui, pour l'entendre. Il sentait qu'il pouvait être accueilli tel qu'ils étaient. Et Jésus ne leur demandait pas de se transformer eux-mêmes, mais il allait les transformer quand il lui donnait leur cœur. Or, nous faisons toutes sortes d'appels à la chair pour que on s'améliore. Et puis, on vous plonge dans un complexe de culpabilité parce que vous vous rendez bien compte que les années passent et que votre chair ne s'améliore pas. Et que toutes les décisions que vous avez prises, au bout de peu de temps, vous ne les avez pas tenues. Alors on est malheureux, malheureux, malheureux. Et ça se voit sur nos visages. Et alors le monde n'est pas du tout attiré par notre christianisme. Il a assez de nous entendre prêcher. Il voudrait voir cette vie de Jésus dont nous parlons sans cesse, ce Jésus que l'on met à toutes les sauces, jusque sur nos plaques d'automobile, qui se couvre de boue, un Jésus dans la boue. Rien, c'est de l'évangélisation. Nous ne savons pas ce que nous faisons avec le saint nom de Jésus. Le nom qui peut ouvrir les cœurs, mais aussi qui, à cause de nous, est méprisé, parce que nous le rendons méprisable. Alors, je pourrais dire tout de suite que la meilleure préparation spirituelle pour bien saisir notre thème, bien, c'est la lecture et la relecture des deux épîtres de Paul à Timothée, qui sont les seules pages du Nouveau Testament où se trouve par deux fois l'expression « homme de Dieu », à l'exception d'un texte qu'on pourrait trouver dans, comme je l'ai dit hier soir, hein, dans la deuxième épître de Pierre, le dernier verset du chapitre premier, où il est dit que de 16 hommes de Dieu ont parlé étant poussés par le Saint-Esprit. Mais c'est seulement Timothée, dans le Nouveau Testament, et qui est appelé homme de Dieu. C'est à lui que revient cette expression qui sort de la bouche de Paul qui connaissait Timothée. Et hier soir, alors, nous avons insisté sur le fait que nous allions ensemble sonder les Écritures. J'espère que vous n'étiez pas trop écœurés parce que on vous a fait sonder les Écritures hier soir. Parce que, comme le disait encore Claire-Lise de Benoît, me disait, tu sais, maintenant les gens, ils veulent un thème seulement, puis un thème bien structuré comme ça, mais la parole de Dieu, non. Comme le faisait autrefois René Page, qui aimait à donner la parole de Dieu, non. Maintenant, on n'est pas intéressé par verset après verset. Or, je suis absolument convaincu que la vraie étude biblique, elle se fait verset après verset. Et qu'il n'est pas question que nous ayons la réputation d'être un bon prédicateur qui sait bien prêter son sujet. Ce qui compte, c'est que nous puissions vous communiquer le goût de la vie, le goût de la parole de Dieu. Que vous soyez convaincus que quand vous lisez la Bible, même si vous n'avez pas quelqu'un pour vous l'expliquer, le Saint-Esprit, si vous priez, vous donnera de l'intelligence. Parce qu'il est dit qu'il donne de l'intelligence à qui? Aux gens très instruits? Aux simples, hein, et à ceux qui le lui demandent. Et Jésus a dit, je te loue, ô Père, de ce que tu as caché, ces choses aux sages. Et aux petits, aux intelligents, et que tu les as révélés à qui? Aux petits-enfants. Alors, lisons la Bible avec un cœur d'enfant, et quand nous ne comprenons pas, questionnons comme un enfant, hein, ça questionne les enfants. Et attendons peut-être, et allons plus loin, et nous découvrirons, dans quelques versets plus loin peut-être, un peu de lumière qui va éclairer le texte sur lequel nous avions une difficulté. Si vous n'avez pas compris, vous continuez. Ne vous laissez jamais arrêter par une difficulté. Nul homme qui a mis les mains à la charrue et qui regarde en arrière n'est propre pour le royaume de Dieu. Si vous voulez que le sillon soit droit, on a ça dans Luc chapitre 9, c'est une parole de Jésus, eh bien, il faut avancer avec la charrue, les yeux fixés devant nous. Alors, nous vous disions que nous allions sonder les Écritures. Car toutes les Écritures rendent témoignage à qui? À Jésus. C'est Jésus lui-même qui a dit, vous sondez les Écritures, il a dit cela aux Juifs, parce que vous estimez avoir en elles la vie éternelle. Eh bien, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et dans toutes les pages de la Bible, de l'Ancien Testament, c'est la personne de Jésus que vous devez trouver. Je sais que pour beaucoup, quand ils ont compris cela, ça a été un trait de lumière, et ils se sont mis à lire l'Ancien Testament, et au lieu d'y trouver des vieilles histoires d'un autre peuple et d'un autre âge, ils ont dit, mais c'est mon histoire. Ils ont vu l'actualité de tous ces textes, et toutes ces vies, au lieu d'être la vie d'hommes qui ont vécu il y a longtemps et qui sont morts, eh bien, toutes ces vies sont un enseignement. Chaque vie de ces hommes de la Bible de l'Ancien Testament est elle-même un enseignement. Leur vie est une doctrine. Et cela m'enseigne. Vous pouvez vous arrêter sur chacune de ces vies. Et quand on lit la vie de ces hommes de l'Ancien Testament, on n'est jamais écrasé, comme quand on lit les biographies écrites par des hommes. Qui nous mettent, qui encensent le héros du livre, qui nous disent que les beaux aspects de la vie d'un homme, qui est un chrétien peut-être, mais on dit, moi, je pourrai jamais, je ne serai jamais comme lui. Bien, c'est pas cela. Parce que la Bible vous montre les défauts aussi, les manquements, les faiblesses de ces hommes. Mais vous voyez que Dieu a quand même travaillé avec ces types-là. Et c'est ça qui est fantastique. Il a travaillé avec des hommes comme nous, des hommes qui avaient les mêmes passions que nous, qui avaient les mêmes difficultés, qui ne comprenaient rien d'abord à ce que le Seigneur leur disait, comme les disciples. Regardez un petit peu, ils ne comprirent rien à ces choses. Eh bien, c'est Jésus que nous allons rencontrer, celui qui est l'homme de Dieu par excellence, vous l'avez bien compris, qui est l'homme de Dieu par excellence. C'est Jésus qui, pour proclamer sa divinité, s'appelait lui-même, d'une façon paradoxale, le Fils de l'homme. Plus de 80 fois dans les évangiles, Jésus s'appelait le Fils de l'homme. Et quand il disait Fils de l'homme, il ne voulait pas dire Fils de Joseph, mais vraiment ce Fils de l'homme qu'avait annoncé quel prophète ? Daniel, et qui était Dieu lui-même. Dieu lui-même. Parce qu'il doit y avoir identification de l'homme avec Dieu. C'est cela, le connaître. C'est être rendu participant de sa nature. Alors c'est avec cette personne adorable que nous désirons être en contact au cours de ces journées, car, nous l'avons vu hier soir, sa connaissance est la seule qui nous met en relation avec le Dieu vivant. Et après avoir parlé au Père par les prophètes, nous savons que ce Dieu vivant, en ces temps qui sont les derniers, comme le dit Hébreux chapitre 1, versets 1 à 2, il nous a parlé dans le Fils. Il nous a parlé dans le Fils. Alors, je résume maintenant notre enseignement d'hier soir par ces quelques points. Premièrement, nous avons souligné que pour connaître les caractères d'un homme de Dieu, il nous faut premièrement connaître Dieu d'une façon intime, d'une façon personnelle. Et j'ajouterai d'une façon quotidienne. C'est pas « j'ai connu le Seigneur autrefois », mais « je le connais aujourd'hui ». Je suis en relation aujourd'hui avec mon Dieu, avec mon Seigneur. Et cette connaissance de Dieu par son Fils, c'est cela qui est appelé la vie éternelle. Hein. Nous l'avons souligné. Jean, chapitre 17, verset 3. Et nous avons vu aussi que cette connaissance n'était pas une simple information, mais que cette connaissance était un amour. Cette connaissance est un amour. Par la connaissance seule, elle entre, tandis que l'amour, il est dit. Et la connaissance de l'amour du Christ surpasse toutes les connaissances, comme on le voit dans le chapitre 3 de l'Épître aux Éphésiens. Cette connaissance est un amour. Alors, nous avons affaire avec, non pas le Dieu de notre imagination, ou celui que notre raison, notre intelligence humaine peut admettre, parce que l'Écriture dit que seuls les insensés nient l'existence de Dieu, de sorte qu'il est parfaitement raisonnable de croire que Dieu existe, mais nous avons une autre connaissance que cela. Notre connaissance de Dieu vient de la révélation, et non de notre imagination, ou simplement de notre raison, ou de notre intelligence naturelle. Ce Dieu est celui de la Sainte Écriture. Et nous avons vu que les Écritures comprenaient tout d'abord l'Ancien Testament. Chaque fois que Jésus a parlé des Écritures ou que les apôtres ont parlé des Écritures, dans leur prédication, ils parlaient de quoi ? De l'Ancien Testament, puisque le Nouveau n'existait pas encore. Mais on a vu aussi que le terme « les Écritures » pouvait comprendre aussi le Nouveau Testament, aussi bien les évangiles qui nous communiquent les paroles du Christ, que les épîtres, des hommes ayant été choisis par Dieu pour nous transmettre la révélation et nous éclairer sur les pages de l'Ancien Testament. Et nous avons souligné aussi que le seul moyen d'avoir la foi en l'inspiration des Écritures, c'était quoi? C'était de les lire. Et non pas de critiquer les Écritures, mais de nous laisser critiquer par elles. Ça fait un travail. Ne lisez pas les Écritures pour les critiquer, mais laissez-vous critiquer par elles. Et dans des congrès que j'ai dû avoir avec des théologiens, c'était la seule chose que je pouvais leur avancer. Vous critiquez la Bible. Bon. Eh bien, moi, je veux me laisser critiquer par la Bible. Et ça fait un tout autre travail. Et je me souviens d'un grand jésuite qui disait, je pense que Pasteur Racine a raison. Moi, je suis dur avec la Bible, je critique la Bible, mais les résultats, disait-il, peut-être que ceux du Pasteur Racine sont meilleurs. C'est pas mes résultats à moi. Mais je sais que les gens qui se sont laissés critiquer par la Bible ont vu leur vie transformée. Des foyers ont été réunis, des alcooliques ont été libérés de ce joug, comme des drogués et d'autres personnes. Quand on se laisse reprendre, corriger par la Bible. Le plus minable des hommes peut devenir un homme de Dieu. Parce qu'il se laisse corriger par la parole de Dieu. Mais le plus instruit des théologiens peut être un agent de Satan, un destructeur de la foi. Et voyez-vous, il nous faut être de ceux qui sont prêts à témoigner de cela et qui ne se laissent pas impressionné par les titres de certaines personnes qui aiment mettre tous leurs titres en avant. Ils sont théologiens, ils sont docteurs de ceci, docteurs de cela. Et combien d'hommes que j'ai vus qui étaient des serviteurs de Dieu dans une église ou dans une autre, enfin des serviteurs, disons, et qui n'osaient pas se lever pour protester contre ce que des théologiens disaient. Et quand je leur demandais, mais pourquoi est-ce qu'on n'avait rien dit? Oh, il en sait tellement plus que nous. Mais ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'ils disaient. Mais ils étaient paralysés par les titres du bonhomme. Ce bonhomme, qui une fois, même embaumé, au salon funéraire, pourrirait dans la terre. Même avec un cercueil de 10 000 dollars, air conditionné. J'en ai vu un, oui. Ici au Québec, j'ai vu la facture, 10 000 dollars. Le cercueil, ce qu'on voulait, n'est-ce pas, que soit bien. Incroyable. Mais vrai, je vous raconte pas des histoires, je vous mène pas en bateau. Mettre 10 000 dollars dans la terre, puis on se dit chrétien. Et même évangélique. Il y a des choses qui vous étonnent. Ne jugez plus les autres. Jugeons-nous nous-mêmes, comme l'a souligné notre frère. Parce que notre cœur, honnête et bon, c'est seulement, comme il l'a souligné, un cœur qui se juge. Parce que littéralement, dans l'Écriture, comme notre frère nous l'a dit, le cœur, il est trompeur, désespérément malin. De sorte qu'un cœur honnête et bon, s'il est parlé d'un cœur honnête et bon, c'est un cœur qui reconnaît cela. Alors il est honnête. C'est un cœur qui admet ce que Dieu a dit. C'est vrai que mon cœur est cela. Quand je lis ce que Jésus dit au sujet de ce qui se trouve dans le cœur de chair d'un homme, soit dans Marc 7, soit dans Matthieu 15, bien, on n'est pas à relever la tête. Et le Seigneur ne nous a pas dit des mensonges. Il nous dit ce qu'il voit dans notre cœur. Et quand on voit ce que sont nos pensées, même après des années de vie avec le Seigneur, bien on sait très bien que nous ne pouvons que nous juger. Nous ne pouvons que nous juger, parce que je ne peux pas penser qu'un jour ma chair ira quelque chose de bien. La place de ma chair, elle est où? À la croix, où mon Sauveur a été crucifié, et non seulement à la croix, mais dans le tombeau. C'est pourquoi nous n'avons pas à nous montrer nous-mêmes, mais à laisser Jésus se manifester dans nos vies. Et alors, cette foi donc, qui vient de ce qu'on entend par la parole de Dieu, cette foi, elle trouve sa manifestation, nous l'avons vu hier, en nous, par une obéissance à la parole. C'est ça la foi. Elle vient de ce qu'on entend par la parole de Dieu, mais sa manifestation visible, elle se trouve dans une obéissance complète à la parole de Dieu. Non pas une obéissance qui viendrait de la chair, mais qui nous est donné par le Saint-Esprit, qui nous ayant convaincus de notre immense faiblesse, nous montre que c'est seulement par sa puissance que nous pouvons obéir. Il me faut de la puissance. Pourquoi? Pour faire des grands miracles, pour faire de grandes choses, comme nous le prétend dans tant de milieux religieux évangéliques. Il nous faut de la puissance pour obéir à la parole de Dieu, pour vivre en authentique chrétien. J'ai besoin d'une puissance qui n'est pas en moi, mais qui est surnaturelle et qui vient de lui. Voilà pourquoi l'apôtre disait à Timothée, à cet homme de Dieu, souffre par là, par quoi? Par là, puissance de Dieu. Parce que pour pouvoir souffrir, il faut de la puissance. Souffre par la puissance de Dieu. Seigneur, donne-moi ta puissance pour que je puisse entrer dans la communion de tes souffrances. Il faut la puissance de ta résurrection. À nous poser cette question, à qui appartenons-nous? Pour qui sommes-nous conscients de vivre aujourd'hui? C'est des questions que j'ai posées hier soir, et qui m'ont questionné aussi cette nuit. Est-ce que nous vivons pour nous-mêmes ou pour le Christ? Est-ce que nous avons renoncé à nous-mêmes pour vivre désormais pour Jésus? Et toute cette préparation d'hier débouchait sur cette prise de conscience que toute la Bible, quand elle est vraiment connue, nous montre cette vérité bouleversante, c'est que Dieu a voulu être le Dieu de qui? Le Dieu de l'homme. Dieu a voulu être d'abord le Dieu de l'homme. Et c'est fantastique que Dieu n'ait pas honte de se réclamer des hommes pour se faire connaître. Dieu, pour se faire connaître à d'autres, se réclame des hommes. C'est ce que nous avons vu hier soir. Alors c'est le Dieu d'Abraham, un homme dont on peut connaître la vie. C'est le Dieu d'Isaac, le gourmand, qui aimait le gibier. Et les produits de la chasse, un bon Canadien. Mais c'est aussi le Dieu de Jacob, de cet homme tordu qui nous ressemble tellement. Mais c'est le Dieu de Moïse, à 80 ans. Et quand il parle à Moïse, il lui dit, je suis le Dieu de ton père. Oh, c'est merveilleux. Voilà comment il se fait connaître à Moïse, à 80 ans. Je suis le Dieu de ton papa. Vous savez pas que c'est fantastique? Ce Moïse qui n'a pas connu beaucoup son papa, mais qui a été élevé par sa maman, Alors quand on dit le Dieu de papa, c'est aussi le Dieu de maman. De ta maman qui t'a élevé avant que tu ailles chez la fille du Pharaon. Parce qu'il ne faut pas se représenter Moïse bébé remis à la fille du Pharaon. On allaitait très longuement de ce temps-là en Orient jusqu'à 5, 6 ans et quelquefois même 7, l'allaitement mixte. De sorte qu'on peut penser que Moïse n'avait pas plus de 5 ans, en tout cas, quand il a été remis à la fille du Pharaon. Et les hommes érudits nous disent que à 5 ans, un enfant, il est déjà formé. De sorte que ce qui a permis à Moïse, comme je le souligne souvent, de traverser toutes ses hautes études à la cour d'Égypte, c'est ce qu'il avait reçu de qui? Sa mère. Pas de la télévision. Babysitter, la télévision, comme ça les enfants se font. Ils comprennent rien. Misérables que nous sommes. Comme si les enfants ne comprenaient rien. Nous meublons leurs pensées de toutes ces images détestables. Et nous ne comprenons pas que nous avons dressé une idole dans nos foyers. Et que nous sommes devant l'idole. Oh, mais on s'excuse parce que on a cet engin seulement pour les émissions religieuses. Bande de menteurs que nous sommes. J'en dis aussi pour les nouvelles. Oh, bien sûr, j'ai rien contre les nouvelles. Et je n'ai rien contre la télévision en elle-même. Mais tant que ce n'est pas le Seigneur qui règne, je sais qui font les programmes essentiels de la télévision. Ce sont des hommes, ce sont des agents extracteurs qui détruisent la vie familiale, la vie conjugale. Parce que vous ne pouvez pas voir toutes ces choses. Oh, vous dites, mais je tourne le bouton. Vous tournez le bouton, oui, et vous avez vu quand même. Et vous savez que ça va vite dans la pensée. Et on est imprégné d'une chose. Et ce qui nous reste, c'est une saloperie. C'est vrai ou c'est faux? Donc, puisque vous avez des cœurs, vous, autres que le mien. Mais quand j'ai enlevé toutes les feuilles d'artichaut de mon cœur, ben, je sais ce qui reste. Alors, mes amis, nous ne voulons pas nous leurrer. Nous voulons être vrais. Et c'est pas pour vous décourager que je vous dis ça, c'est parce que je vous aime. Et que je vous aime passionnément. Et que je sais que mon temps aussi, il est court. Et que j'aurai à répondre de ce que j'ai enseigné. À qui appartenons-nous? Pour qui vivons-nous? Quel est l'objet de nos pensées, de nos affections? Est-ce que nous avons vraiment compris que ce Dieu, ce qu'il a été pour Abraham, pour Isaac, pour Jacob, pour Moïse, pour Josué, pour les juges, pour les rois, pour les prophètes, mais ce qu'il a été par excellence pour Jésus-Christ, pour les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament, pour les juifs et pour les païens, bien, aujourd'hui, c'est lui qui veut être notre Dieu. Le Dieu de papa, disions-nous, et de maman. Et c'est le Dieu de nos enfants en 1987. Si nos enfants peuvent se souvenir du Dieu de papa et de maman, eh bien, ils auront une force extraordinaire. Dans les moments de doute, il y a une chose dont ils ne pourront pas douter, c'est du Dieu de papa et de maman. Peut-être qu'ils douteront des Écritures à un certain moment. Mais il leur restera le souvenir d'un père et d'une mère qui croyaient et qui a traversé les épreuves. Et ils ont vu papa et maman traverser ces épreuves. Ils ont connu ces épreuves. Ils étaient associés. Ils étaient dans une vie familiale où on lisait ensemble la parole de Dieu, où l'on priait ensemble. Ils ont vu les détresses de leur père et de leur mère. Ils ont vu leurs faiblesses. Mais ils ont vu aussi la délivrance. C'est un Dieu duquel ils ne douteront pas. Et je disais que ce que Dieu a été pour Jésus-Christ, Il veut l'être pour nous. Est-ce qu'il a fait pour son Fils? Il veut le faire pour nous. Et enfin, nous avons terminé en montrant qu'aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu cherche? Un homme qui devienne son homme. Comprenez-vous? Dieu qui a été le Dieu de l'homme cherche un homme. Et avec un seul homme, alors que nous voulons les multitudes, des multitudes sauvées avant l'an 2000, Dieu cherche un homme. Nous sommes en pleine contradiction avec tout ce que nous montre l'Écriture. Dieu ne travaille pas avec les foules. Avec qui est-ce qu'il travaille? Avec des individus. Relisez l'histoire des juges et de Gédéon. 33 000, c'est trop. 300, c'est encore. Vous êtes trop nombreux. 10 000, c'était trop. On arrive à 300. Et qu'est-ce qu'ils feront, ces 300? S'ils s'exécuteront simplement les ordres de Dieu, c'est pas avec leur épée qu'ils vont. Des flambeaux et des trompettes. Elles sonneront de la trompette avec les flammes. Ils seront sur place, ils courront pas ça et là pour sauver les âmes. Mais ils seront là où Dieu les veut et ils ont un témoignage. Et c'est cela qu'il nous faut, des hommes et des femmes qui se tiennent debout dans leurs circonstances difficiles au sein de la nuit de ce monde, mais qui ont un témoignage. Et alors, je vous ai dit que aujourd'hui, je dirais que j'ai pris beaucoup de temps, mais pour vous redire un peu ce que nous avons vu hier soir, mais comme le dit saint Paul, vous redire les mêmes choses, cela ne m'est pas pénible, c'est votre sûreté. Et ça sert à rien de vouloir construire trop vite quand on n'a pas bien établi les bases. Parce que je ne veux pas que ça soit démoli. Le fondement est posé. Et maintenant, nous pouvons aller de l'avant. Je le crois. Je vous ai dit que dans l'Ancien Testament, qui comprend donc toutes les Écritures, l'Écriture inspirée, on trouve 75 fois ce titre « Homme de Dieu » qui est donné à travers ces pages, mais dont quelques noms sont connus, mais d'autres sont inconnus. Inconnus de nous, mais vous pouvez dire comme saint Paul, bien connus de qui? De Dieu. Ils sont inconnus, mais bien connus. 2 Corinthiens 6, verset 9. Alors, je vous en ai cité 7, et je ne m'en vais pas allonger longuement sur chacun de ces hommes qui sont cités comme hommes de Dieu, mais je voudrais que vous les reteniez et que dans les jours qui viendront, vous ne vous plaigniez plus de ne pas avoir trop de nourriture dans vos églises, mais que vous-même, vous méditiez sur ces hommes, en relisant les textes qui éclairent la vie de ces hommes et qui vous donneront un enseignement extraordinaire. Il y a Moïse, qui est appelé homme de Dieu. C'est le premier homme de l'Ancien Testament qui est appelé homme de Dieu dans Deutéronome, chapitre 33, verset 1. Dans sa bénédiction, c'est la bénédiction de Moïse, homme de Dieu. Il y a Samuel, dont nous allons dire quelques mots, et puis ensuite, vous avez Élie, puis, quatrièmement, Élisée, ensuite David, puis Shemaïa, qui est moins connu, et Hanan, fils de Gidalia, qui est aussi appelé homme de Dieu. C'est les 7 noms que nous avons et qui sont mentionnés comme étant des hommes de Dieu. Alors, regardez, Moïse est appelé six fois homme de Dieu dans l'Ancien Testament. Si vous voulez les textes, c'est Josué 14, verset 6. 1 Chronique 23, verset 14. 2 Chronique 20, verset 16. Puis Esdras, quand il y a le réveil, il cite Moïse et il l'appelle homme de Dieu, Esdras 3, verset 2. Et dans un psaume, le psaume 90, qui est le psaume de Moïse, homme de Dieu. Vous avez cela dans le titre du psaume. Et, comme le disent les rabbins, au fond, Moïse, appelé homme de Dieu, ça veut dire il était le partenaire de Dieu. Homme de Dieu, c'est être le partenaire de Dieu. De même que l'époux peut forcer sa partenaire à faire ce qu'il veut, ce qu'il désire, Moïse pouvait, en quelque sorte, presque forcer Dieu à faire ce qu'il voulait. C'est assez extraordinaire, sauf pour un point sur lui. Il n'a pas pu forcer Dieu, là, pour lui-même. Mais pour les autres, quand il a prié pour les autres, il a pu, en quelque sorte, forcer Dieu. De changer sa décision. Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Plusieurs fois, détruire le peuple. Et Moïse s'est mis à genoux devant Dieu, il est dit qu'il a intercédé, il a même été jusqu'à dire, efface-moi de ton livre. Ça, c'est le vrai salut. Quand on peut arriver à cela. Il n'est pas préoccupé par son petit salut. Moi, je suis sauvé, les autres seront perdus, tant pis. C'est de leur faute. Non, efface-moi de ton livre, mais sauve-les. Voilà un caractère d'un homme de Dieu, complètement dépréoccupé de son sort éternel, mais qui aime les autres, et qui dit, j'aimerais mieux être en enfer, pourvu que les autres soient au ciel. Quel est un autre homme dans le Nouveau Testament qui a eu au fond la même pensée au sujet de son peuple? C'est l'apôtre Paul, hein. L'apôtre Paul, il dit qu'il a souhaité être anathème, c'est-à-dire exclu, pour que les Juifs, qu'il avait tant persécutés, soient sauvés. Et vous savez, quand on peut dire cela à des Juifs, je l'ai fait à Jérusalem une fois, je me souviens toujours de la réaction du géomètre de la ville, qui était bouleversé, parce qu'il avait des préjugés, il disait que si ça n'allait pas entre Juifs et Chrétiens, s'il y avait l'antisémitisme, tout venait de Paul. C'était Paul l'auteur de l'antisémitisme. J'ai dit, où avez-vous lu ça? Dans un auteur allemand. Bon, j'ai dit, mon cher ami, alors. C'est pas une référence de dire un auteur allemand. Même si c'est un théologien. Parce que vous savez bien ce que les Allemands font aux Juifs. Alors, vous voyez, nous avons des arguments qui sont convaincants. Cet homme a demandé pardon devant tout le monde qui était là. Parce que je lui ai dit, mais vous permettez que je vous donne une Bible? Il dit, mais moi j'en ai une. Je dis, oui, mais vous avez aussi le Nouveau Testament? Mais bien sûr, c'est aussi notre patrimoine. Ce sont des Juifs, à part Luc, qui ont écrit le Nouveau Testament. Alors, ils se glorifiaient, hein, c'est toujours nous les Juifs. Alors, pour ce qui leur plaît, ben ça va. Le Nouveau Testament a été écrit par des auteurs juifs, alors ça va. J'ai dit, ben lisez Romain. Il est allé chercher sa Bible devant tous, il y avait une vingtaine de personnes. Il a ouvert sa Bible, puis il a lu chapitre 9 à haute voix. Faut les faire lire. Alors j'avais plus besoin de discuter. Quand vous entendez un juif qui écoute ça, qui dit, mon cher ami, il m'a tapé sur la cuisse, il dit, merci, nous vivons de préjugés. Hein? Et d'ignorance, mais nos préjugés viennent de l'ignorance. Et nous, qu'est-ce que je pouvais faire? Moi, je pouvais pas discuter. Mais je pouvais le mettre en contact avec l'Écriture. Et qu'est-ce qui allait le convaincre? Ça a été, non pas Racine, mais l'Écriture. Il a retiré devant tout le monde, c'était des Juifs, il a retiré ses propres paroles de condamnation contre saint Paul. Alors, c'est cela, chercher à éclairer les âmes qui sont victimes des faux bruits, des médias, de tout ce que vous entendez. à la radio, puis qui vous impressionne, qui viennent pas de Dieu. Parce que on vous dit toujours des choses comme si c'était des faits. Or, ce n'est que des suppositions, des pensées, des arguments purement humains, puis nous, on est de nouveau troublés. Pour quelle raison? Parce qu'on n'a pas la base. Et la base, c'est l'Écriture. Et quand vous entendez quelque chose, eh bien, il y a une cloche qui sonne en vous. Hein? Tant pis si vous dites que je suis un clochard. Ça n'a pas d'importance. Hein? Mais la cloche sonne et me rappelle un texte. Et me dit, c'est pas juste. Mais il ne faut pas que la Bible soit dans les couvertures noires ou rouges, mais que cette parole soit dans notre cœur, que la parole du Christ habite en vous richement, avec abondance. Et alors le Saint-Esprit qui devient votre mémoire, comme l'a dit Jésus si bien, nous rappelle au moment voulu un texte qui nous éclaire, qui nous illumine, qui nous convainc, qui nous rassure, qui nous console. C'est par la consolation des Écritures que nous avons espérance. Hein, nous l'avons lu hier. Et les Écritures, c'est toujours aussi cet Ancien Testament. Alors, vous allez relire toute cette vie de Moïse qui part du chapitre 2 de l'Exode, où vous verrez ses parents qui sont dans une situation tragique. Ils savent que si c'est un fils, ils doivent le faire mourir. Hein? Ils le savent. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont employer tous les moyens anticonceptionnels? Que l'enfant maintenant, puisque le roi dit, parce qu'on ne peut pas savoir. Hein? Puis même si on avait les échographies, pourtant, les échographies, ça existait déjà. La première femme qui a eu son échographie, c'est qui? C'est Rebecca. Elle est allée consulter l'Éternel, puis l'Éternel lui a dit, il y en a deux. C'est quand même formidable. Comme je dirais, l'inventeur de l'anesthésie, qui sait? C'est Dieu. Quand il a opéré Adam, il l'a endormi. Hein? Alors, tout ce que les hommes font, ben, ils singent Dieu. Et qui a fait l'anesthésie? La première anesthésie, c'est notre Dieu. Alors, vous savez, on n'est pas arriéré quand on lit la parole. On est petit, oui. C'est pour ça, on reste petit. Mais cette parole, elle nous nourrit, elle nous fortifie. Comme nous allons le voir, elle va jusque dans nos os. Et c'est tellement vrai que même après une année dans la tombe, les os d'un homme de Dieu peut ressusciter un mort. Vous voyez pas que c'est formidable? De qui ai-je parlé? Les disciples. C'est pas des contes que je vous raconte. Alors, vous partez de Moïse, dans sa conception, dans sa naissance, dans ses 3 mois cachés, puis ensuite, dans le petit coffret que l'arche, au fond, l'histoire de l'arche a inspiré à sa mère, puisque toute une famille, 8 personnes, ont été sauvées par une arche, pourquoi est-ce que mon petit Moïse, qui était bon pour Dieu, ne serait pas sauvé par un petit coffret? Et elle a fait un petit coffret, proportionné bien sûr à la grandeur de son Moïse, mais elle a employé certains éléments qu'on retrouve dans l'arche. Elle l'enduit de bitume, bon. Alors, vous voyez Moïse dans les roseaux, et vous partez de Moïse dans les roseaux, et vous connaissez toute cette histoire, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire simple, vous savez toutes ces choses, mais je voudrais que vous les repreniez, que vous les viviez, et que vous suiviez Moïse ensuite, à la cour du Pharaon, après avoir été nourri par sa propre mère, et ensuite, Moïse, qui, hélas, se souvient bien de son peuple et pense que Dieu l'a choisi pour délivrer son peuple, mais qui n'attend pas l'heure de Dieu, et qui, devançant l'heure de Dieu, qu'est-ce qu'il devient? Au lieu de sauver son peuple, il tue. Et c'est ce qui arrive. Quand un homme pourtant, qui sera un homme de Dieu, veut agir avant son heure, il fait des dégâts. Et il est mis de côté pendant 40 ans. Ça vous instruit pas, ça? Et c'est quand il sera derrière le désert, après 40 ans au service de son beau-père Jéthro, que tout à coup, il entendra la voix « Moïse, Moïse, me voici. Mais qui est? Qui c'est toi? Ce buisson ardent. Je suis le Dieu de ton père. » Oh, que c'est beau. Je suis le Dieu de papa. Et il s'en souvient. Je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, ce ne sont pas des inconnus. Et il sait ce que Dieu a été pour ces hommes. Eh bien, maintenant, l'heure est venue. Parce que Dieu avait donné encore 40 ans aux Amoréens pour se repentir. Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion et sa vie. Il avait dit à Abraham pendant 400 ans, ton peuple, tes descendants seront en Égypte. Il avait dit ça à Abraham, dit Abraham n'avait pas de descendants. Et il a dû croire. Hein. Il a dû être convaincu. Mais tout au fond de son cœur, il a ri. Et puis après, Sarah, elle a ri aussi. Tout le monde a ri. C'est pour ça qu'on a appelé Isaac. Isaac, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Rire. Hein, parce que tout le monde avait ri. Alors Isaac portait ce nom de rire. Tout le monde avait ri. Même Ismaël a ri après, quand il avait 13 ans. Alors vous suivrez ensuite ce Moïse allant trouver le Pharaon avec son frère Aaron. Vous les verrez ensuite sortir après la nuit de Pâques, traverser la mer Rouge. Vous le verrez au Sinaï, entendant la voix divine et communiquant la loi au peuple. Puis vous le suivrez pendant ces 40 années dans le désert. Moïse, homme de Dieu, et dont toute la vie appartient à Dieu, parce qu'il a refusé les trésors de l'Égypte. Et j'étais en Égypte cette année, et bien je les ai vus, ces trésors de l'Égypte. C'est vrai qu'il y a des trésors dans ces tombeaux. Que ce soit dans la vallée des rois, dans la vallée des nobles, dans la vallée des reines, il y a des richesses incroyables. Eh bien, il a refusé les richesses de l'Égypte pour vivre cette vie dans le désert avec un peuple agréable, non, un peuple détestable, un peuple aux coups raides, et s'est pas découragé, et il ne s'est pas aigri, et il a intercédé pour ce peuple, à un tel point qu'il est dit que Moïse, si Moïse, son élu, psaume 106, hein, ne s'était pas tenu à la brèche jour et nuit devant Dieu, Dieu aurait détruit ce peuple. Donc Moïse est un des grands intercesseurs. Oui, le partenaire de Dieu. Et puis alors vous le suivrez jusqu'à sa mort. Vous voyez un homme, on lui propose une course de montagne avant de mourir. Oh ben, c'est pas ce qu'on fait dans les hôpitaux. Ben non, Moïse a 120 ans. Sur la montagne, le sommet du Pisga. Et Moïse monte. Et il est avec Dieu. Après 40 ans, il est encore avec Dieu. Il a eu des manquements. Et il sait bien qu'il ne peut pas entrer dans le pays de Canaan. Mais Dieu a une douceur incroyable. Il ne veut pas, parce que Dieu sanctionne le mal. Vous ne pouvez pas, chers amis, échapper au châtiment. Vous échappez à la colère de Dieu. Dieu n'est plus en colère. Jésus a subi toute la colère. Mais il nous châtie comme un père. Et même si on est un Moïse, Dieu lui dit, ne me parle plus de cette affaire, hein, au sujet de vouloir entrer dans le pays. Mais alors, quelle douceur. Les rabbins disent qu'il est mort dans un baiser de Dieu. Il est dit que sur la montagne, après que Dieu lui eut montré tout le pays, il mourut sur l'ordre de Dieu, et s'est traduit dans un baiser de Dieu. Et c'est tellement vrai que le directeur des pompes funèbres, c'était Dieu lui-même. et Dieu l'enterra à ses frais. Rendez-vous compte, quant à son corps, mais on le retrouve sur la montagne de la transfiguration. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous vivent. Nous vivons encore avec Moïse, le Dieu de Moïse. Il nous enseigne comment nous avons à vivre aussi dans ce monde, rejetant les trésors de l'Égypte. Et il marchait comme voyant qui ? L'invisible. Parce que vous savez, pour marcher au milieu des chrétiens, il faut voir autre chose que les chrétiens. Il faut voir autre chose que se regarder dans la glace. Parce qu'alors vous allez au suicide, tout droit. Vous êtes tellement écœuré de vous-même, vous avez tellement la nausée, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Mon vrai portrait, j'ai à le regarder en Christ. Et c'est ça qui devient réconfortant. Et dans la mesure où vous contemplez le Christ, vous êtes transformé. Non pas vous vous transformez, mais vous êtes transformé. Alors, des roseaux du Nil au sommet du Pisga. Moïse, homme de Dieu. Alors, ensuite, vous allez trouver Samuel. Samuel est nommé 4 fois homme de Dieu. Alors, vous allez prendre la vie de Samuel de nouveau et voir cette vie qui a été demandée à Dieu par sa mère, Anne, hein, avant sa naissance, et alors qu'elle était stérile. Elle a prié pour avoir un fils et Dieu lui a répondu. Elle a eu cet enfant, mais elle l'avait promis. Et si vous lisez les textes, il est dit, elle l'a prêté à l'Éternel. C'est bien. Homme de Dieu, est-ce que vous, parents, est-ce que vous avez eu cette pensée, si vous aviez un enfant, je le prête à l'Éternel? Ou bien est-ce que vous avez eu cette idée, il faut que mon fils ait une belle situation dans le monde? Et au fond, c'est nous les parents qui perdons nos enfants. La plupart du temps, par nos ambitions orgueilleuses, de notre cœur paternel ou maternel, nous perdons nos enfants. Nous les plaçons dans des situations où ils ne peuvent pas résister. Et alors après, on se plaint et on prie pour nos enfants. Et nous sommes les premiers responsables. Lot a mis ses filles dans un lieu où, forcément, une fille, elle veut se marier, elle ne pouvait rencontrer que les gens de Sodome. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Parce qu'il a convoité ce qui était le plus facile. Il a tout perdu. Celui qui veut gagner sa vie, il la perd. Alors vous voyez, c'est l'écriture qui vous façonne. Alors reprenez la vie de Samuel, homme de Dieu, puisque 4 fois il est mentionné homme de Dieu. Et c'est tellement beau, quand il est petit enfant, il était encore tout jeune, verset 24 du chapitre 1er, quand il a commencé son service. Et puis, il grandissait devant l'Éternel. Et 3 fois dans les premiers chapitres du livre des Juges, il est dit que cet enfant grandissait. Il y a une croissance spirituelle. Et c'est à cet enfant, et non pas au vieil Élie, que Dieu se communique. Le vieil Élie était pourtant un sacrificateur, hein. Mais c'est pas au sacrificateur que Dieu se communiquait, il se communiquait à l'enfant Samuel, qui grandissait devant lui. Et voyez-vous, vous me direz, mais oui, mais nous, on n'a pas fait ce qu'on a fait, on n'a pas demandé au Seigneur, puis on n'était pas encore convertis, nos enfants, on les a plutôt subis, ou ça a été plus ou moins des accidents. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, quand vous pensez à vos enfants, dites-vous, eh bien, Seigneur, je ne les ai pas demandé, mes enfants. Seigneur, j'ai fait un tas d'erreurs, un tas de gaffes, mais aujourd'hui, c'est le mot du Saint-Esprit. Eh bien, aujourd'hui, je t'ai consacré. Aujourd'hui, 17 octobre 1987, je reconnais mes erreurs. Avec mes enfants, au lieu de les critiquer, au lieu de les juger, je me juge moi-même, je prends ma responsabilité de père, parce que je n'ai pas été comme j'aurais dû être, comme père. Mais je te consacre. Et je te demande d'être le réparateur des brèches. Vous verrez des choses changer dans votre vie. Le mot de Dieu, c'est aujourd'hui, c'est le mot du Saint-Esprit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait étonnant pour celui qui fait naître d'une matrice stérile peut bien régénérer votre fils, même s'il a passé par la drogue et tout ce que vous voulez, comme il y a tant d'enfants chrétiens. Alors, j'y crois de tout mon cœur. Et si vous êtes de ces hommes que Dieu cherche, de ces femmes que Dieu cherche, et que vous y croyez de tout votre cœur, vous verrez ce que Dieu fera autour de vous. Parce qu'il est dit que si Dieu avait trouvé un seul homme à Jérusalem, sur qui il puisse compter, il aurait épargné la ville. Il n'y en avait pas. On a cherché dans les rues de Jérusalem, mais il n'y en avait pas. Eh bien, je demande au Seigneur que, comme il l'est dit dans Ézéchiel, oui, que Dieu puisse trouver en nous ces hommes. Alors vous lirez tout ce qui est dit dans Samuel, et comment, quand il a grandi, mais quand il a été reconnu, parce que tout le monde en Israël a vu qu'il était un homme de Dieu. Ils ont vu que Dieu était avec lui, que Dieu se révélait à lui, tout Israël l'a su. Pas parce que Samuel allait raconter, moi je suis un homme de Dieu. Pas du tout. Il était très humble, mais tout Israël savait que Dieu apparaissait à Samuel et parlait à Samuel. Est-ce qu'on sait que Dieu vous parle? Pas besoin d'aller le dire, mais on devrait le savoir, par votre conduite. Alors finalement, c'est le peuple impie qui dit, au chapitre 7, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu. » Ils n'ont pas foi en leur prière, mais ils pensent que la prière de Samuel peut quelque chose. Et Samuel prie, et c'est Ébénézer, jusqu'ici l'Éternel nous a secouru, verset 12. Puis verset 15, Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Et ça ne veut pas dire que Samuel n'a pas eu des manquements. Quoique homme de Dieu, comme vous le lisez alors au chapitre 9, où 4 fois, il est appelé homme de Dieu quand Saül recherche les ânesses avec son jeune garçon. On parle du voyant d'un homme de Dieu. Et qu'est-ce qu'on dit de lui? C'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Voilà un homme de Dieu. C'est un homme considéré. C'est un homme de Dieu, verset 6. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Oh, il y a un tas de gens qui se disent prophètes aujourd'hui. Et qui veulent parler au nom de Dieu. Et ce qu'ils disent n'arrive pas. Et alors même quand ils écrivent des livres, la nouvelle édition, c'est corrigé. Ça m'amuse. Édition revue et corrigée. Je me souviens d'un certain auteur en Suisse qui écrivait sur les prophéties, et puis il en disait tellement, tellement plus que la Bible, tout en étant un croyant, mais il s'était lancé dans les prophéties, puis il croyait les interpréter avec ce qu'il voyait autour de lui, c'était du temps d'Hitler, puis ça ne s'est pas fait comme il le disait. C'était pas l'heure, c'était pas le temps. Alors l'édition suivante, c'était revu et corrigé, il remettait cela à jour. Mais ça faisait un mal incroyable, parce que les gens lisaient ces livres. Puis ils disaient ensuite, la Bible s'est trompée. C'était pas la Bible, c'était le pasteur. Comprenez-vous? C'est très grave de vouloir prophétiser quand on n'a pas vraiment reçu la parole. Et voyez-vous, j'ai pas besoin de dire, moi j'en reçois des prophéties. Comme certains veulent le dire, pour se montrer prophète, pour se donner du cran. La parole me suffit. J'ai qu'à mettre les gens devant la parole. J'ai pas besoin de dire, moi j'ai reçu cette prophétie. Que je cite la parole. Alors moi ça me met dans l'ombre. Mais la parole est la vérité. Et la parole est une parole prophétique. Ça suffit la parole prophétique. Alors, annonçons la parole prophétique, ne disons pas, moi je suis prophète et j'ai reçu cette prophétie-là, et voilà ce qui va arriver aux États-Unis ou je ne sais où. Parce qu'alors, on se présente, n'est-ce pas, comme un homme qui a de l'autorité. Puis après, les choses n'arrivent pas. Les choses arriveront, mais pas parce que certains hommes le disent, c'est parce que l'Écriture le dit. Jésus a toujours dit, il est écrit. À sa fin, il a dit, il est écrit. Et vous, vous ne sortez pas de là. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes sortes de dons. Oui, recherchez les dons, nous le verrons. Mais ce qui vous suffit, c'est de pouvoir dire, il est écrit. Avoir cette connaissance de la parole. Alors vous serez vraiment un voyant. Le voyant est-il ici. Donc, si Moïse a eu un manquement, qu'est-ce qu'il a eu comme manquement? Il a péché de ses lèvres. Et c'est ça qui me fait trembler, les responsabilités des croyants, des serviteurs de Dieu. Il a péché de ses lèvres. Et c'est bien ce que dit Jacques, hein, celui qui ne pêche pas de ses lèvres, il est parfait. Or Moïse, tout en étant homme de Dieu, c'est dans le psaume 106, eh bien, dans un moment d'impatience, il a dit des paroles qu'il ne devait pas dire, et Dieu lui a dit, tu ne m'as pas honoré devant le peuple, je ne t'avais pas dit de dire cela, je ne t'avais pas commandé de frapper le rocher. Voilà, mais on dit, mais, vous voyez, il a frappé le rocher, mais l'eau a coulé quand même, parce que Dieu est miséricordieux. Mais la méthode n'était pas celle de Dieu. Alors on nous dit, toutes les méthodes sont bonnes pour que les âmes soient sauvées. C'est ça qui est faux, chers amis. Toutes les méthodes sont bonnes. Non, usons de moyens spirituels pour communiquer des choses spirituelles. Or nous, on est en train de regarder à la télévision, de regarder ce qui réussit dans le monde, puis on dit, eh bien nous allons faire ça dans l'église, puis vous allez voir ce que va devenir l'église. Que va devenir l'église?